suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel. Je suis essentiel. Je suis essentiel. Je suis essentiel. Je suis artiste intermittent, théâtre ou salle des fêtes. Le public est ma raison d'être, je fais rêver les gens. Moi je suis le monde de la nuit, une boîte, une discothèque. Chez moi on s'enlève de la tête tous les soucis. Je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel. Ah, ah.
Nous sommes le premier lundi du mois, hop. Et comme tous les premiers lundis du mois, eh bien c'est l'heure de, non pas de mon téléphone, mais l'heure de Tous Essentiels qui commence dès à présent et qui sera consacrée aujourd'hui à, dis-moi Virginie, mais qu'est-ce qu'on fait comme thème aujourd'hui ?
En fait, un thème à 100 thèmes.
Un thème sans thème ?
Non, à 100 thèmes, il y a 100 thèmes.
Ah, 100 thèmes.
Un thème à tous les thèmes.
Un thème à tous les thèmes. Un thème best-of notre année et demie de militantisme effréné.
Eh bien oui, on va faire un petit bilan, un petit point d'étape.
Et il y a Catherine qui est venue nous rejoindre pour cette émission. Bonjour Catherine, ça va bien ?
Bonjour à vous. Ben oui, ça va bien. Content d'être là.
Bon, puis un petit moment solennel aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Max. Joyeux anniversaire, Max.
J'étais un peu passé, mais c'est bon. Merci beaucoup.
À peine. Mais en tout cas, tu sais que dans mon meilleur des mondes à moi, puisqu'il paraît que le thème c'est l'utopie à Lille en ce moment, dans mon meilleur des mondes à moi, il y a, je sais pas, une trentaine d'années. Ta naissance, c'était à peine... Ouais, bon, un petit peu plus. D'accord, un peu. Bon, on va dire, il y a X années, tu serais né avec un revenu de base.
Et
au berceau.
Ça aurait pu être pas mal, effectivement.
Et t'aurais grandi avec ça, avec cet accueil inconditionnel de l'humanité autour de toi, qui t'aurait dit, juste au-dessus de ta petite boubouille et tes langes, welcome Max, bienvenue dans notre monde humain, pour que ton égalité avec les autres humains soit réelle, parce que t'as les droits et puis t'as les moyens, et ben on te donne une somme tous les mois, à tes parents au début, puis après à toi, et puis toute la vie, tu auras ce socle de sécurité, ce matelas sur lequel tu pourras rebondir joyeusement à 10 ans, à 20 ans, à 50 ans, t'as pas encore 70 ans, mais bientôt, tu pourras rebondir sur ton matelas à ressort parce que tu auras ton revenu de base et parce qu'on fait confiance aussi à tes compétences et que avec cette sécurité, bah, tu vas pouvoir prendre ta place, t'éclater et au fil de ta vie évoluer, gérer ton temps de travail, ta formation, remplir des ballons avec de l'air chaud, je sais pas, un truc, devenir ballonologue. Hein, qu'est-ce que t'en penses ?
Ah, pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ?
Hein, non, mais il y a des idées comme ça, on les cherche, on les trouve pas et puis elles se présentent à nous.
On prend un bébé Max.
Donc voilà, j'ai envie d'insister là-dessus, de commencer notre émission aujourd'hui sur cette projection. Certains diront utopique, d'autres diront qu'il faut avoir des rêves assez grands pour les voir de loin. C'est Mark Twain qui a pondu ça, le papa de Tom Sawyer quand même, c'est pas n'importe qui. Et de se dire que si nous on l'avait eu, qu'est-ce que ça aurait changé ? Et nos enfants, quand ils l'auront, je ne dis plus si, vous avez vu, je projette dans le futur et non pas dans le conditionnel, quand ils l'auront, qu'est-ce que ça va changer pour nous, parents, pour nous, adultes autour d'eux, et pour eux surtout, et pour leurs enfants plus tard, et pour leurs décisions, etc. J'ai envie qu'on soit optimiste aujourd'hui et qu'on imagine que c'est possible. Donc on verra très concrètement tous les thèmes, tous les invités qu'on a rencontrés pendant ces 18 mois d'émission, pour balayer tout ce qu'ils nous ont apporté très rapidement. Puis évidemment, vous pourrez retrouver sur le site revenudebase.info toutes les émissions sur Radio Campus, les trois dernières. pour les réécouter et repartager avec voilà toutes ces personnes lambda, des habitants, vos voisins, les personnes que vous croisez dans la rue, qui ont témoigné avec leur vécu et que nous on a juste aiguillé un petit peu et puis surtout beaucoup écouté. Donc voilà, donc pendant un an et demi. Et pourquoi on s'arrête, on fait un point d'étape aujourd'hui? Parce que on est en juin 2022 et que le 25 juin 2022 se termine l'initiative citoyenne européenne qui a servi de fil rouge à toute notre émission.
Voilà, même si on croit encore que c'est possible, le doute s'installe quand même.
Tu veux dire pour passer de 300 000 à 1 million de signatures avant le 25 juin?
C'est ça, oui.
Oui. Alors, il faut vivre d'espoir, mais effectivement, ne vivons pas que de ça. Alors, disons quand même, parce qu'il faut quand même le dire, qu'au passage, il y a eu des tas de rencontres extraordinaires. Il y a vous, auditeurs, qui nous avez écoutés. On a tracté, on a discuté au-delà de nos invités ici. Et on a fait connaître cette idée pour qu'elle reste vivante, même si, il faut bien le dire, puisqu'on aura bientôt des élections législatives, et que les précédentes présidentielles n'ont pas été folichonnes sur le point du revenu de base en tout cas. Pour l'instant, il y a très peu de concret sur une instauration du revenu de base demain. Bon.
C'est pas l'air de... Non, pas
demain, tout de suite demain. Mais après-demain peut-être. Et donc on a une fonction, en tout cas je nous donne notre mission à nous tous, de faire continuer à diffuser, à infuser l'idée du revenu de base, à stimuler nos politiques. Donc on parlera aussi un petit peu de politique.
Eh bien, alors, allons-y.
Oui. Alors, j'ai envie de commencer par ça, si ça vous va.
Ah, bah, si.
Un petit point d'étape sur l'évolution du revenu de base en France. Alors, tout le monde a en tête encore Benoît Hamon, qui, aux précédentes présidentielles, l'a proposé comme mesure phare, le revenu universel d'existence.
Et c'est vrai qu'à 5 ans, c'était pas mal à la mode, hein. Je pense qu'on aurait eu plus de signatures si...
Eh oui, c'est possible. Bon, mais là, non. Et donc, en fait, depuis, Benoît Hamon a sans doute fait un burn-out. Il s'est recyclé dans une ONG, grand bien lui fasse. Et en même temps, la relève est un peu dure à reprendre, en fait. Beaucoup de politiques ont peur du 6% qu'il a fait aux élections. Et ses successeurs, prennent assez peu la mesure de l'idée, en tout cas la grande mesure.
Cela dit, quand ils n'en parlent pas, les socialistes, ils font 1,72%, un truc comme ça. Ça va.
Tu penses que c'est lié?
Ouais, on ne sait jamais.
Ah, c'est possible. Bon, en tout cas, le point d'étape, c'est que depuis 5 ans, la politique est régressive pour ce qui est d'avoir les moyens de notre égalité de droit. Les plus précaires sont encore plus précarisés, ils sont encore plus stigmatisés. Monsieur Macron a mis dans son programme et va sans doute l'instaurer si on y... Mais pas de frein, en tout cas. C'est du chantage à l'emploi, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que pour mériter des aides, puisque maintenant c'est devenu des aides, hein, c'est plus une solidarité nationale, pour mériter des aides, il va falloir travailler. Alors, certains parlent d'esclavage, puisque concrètement, pour avoir ce qu'ils avaient déjà avant, ils vont devoir donner des heures de travail. En tout cas, il y a beaucoup de stigmatisation. Les taux de non-recours explosent. Donc la droite aujourd'hui a complètement laissé tomber l'idée du revenu de base et va même plutôt dans l'autre sens. La version de droite, on n'en entend plus parler. Au niveau local, c'était Valérie Petit qui l'a portée à l'Assemblée nationale. Elle sera plus députée puisqu'elle n'est même plus candidate. Donc on ne sait pas comment elle va réinvestir cette idée-là. Donc aujourd'hui, j'ai potassé le programme de la NUPES. Vous savez, cette nouvelle Union populaire écologique et sociale. Il y a des choses intéressantes quand même. Et en même temps, bon, je vous dis tout. Alors, comme point vraiment très proche du revenu de base, nous avons un minimum vieillesse, une retraite digne, une garantie de retraite digne. Donc à partir de 60 ans, on a droit à la retraite après 40 années d'annuité. Si vous avez fait ces 40 années, votre retraite sera au minimum à hauteur du SMIC revalorisé, c'est-à-dire les 1500 euros promises pour la rehausse du SMIC. Donc pas de retraité à taux plein en dessous de 1500 euros. Et pour le minimum vieillesse, qui est aujourd'hui très très bas, eh bien, il serait relevé jusqu'au seuil de pauvreté, à peu près 1000 euros aujourd'hui. Donc ça, c'est une première étape qui consiste à aller au moins vers une reconnaissance des besoins de base matérielle. Ensuite, dans le thème « Éradiquer la pauvreté », dans le chapitre 3, on voit une instauration d'une garantie de dignité qui ne laisse aucun individu sous le seuil de pauvreté, Alors, c'est pas très très précis, on sait pas exactement comment ils vont mettre ça en place, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, a priori, personne n'aurait d'aide en dessous de 1063 € par mois pour une personne seule. Et ils veulent en parallèle automatiser les aides et les allocations pour éviter les non-recours. Vous savez, toutes ces histoires de dossiers, il manque un papier, du coup ça recule de 3 mois à vos aides, ou vous avez eu le malheur de changer de situation, vous avez bossé 3 heures de trop, donc on vous supprime 200 € sur vos 400 qui ne vous suffisent pas pour vivre, etc. Et le troisième point qui se rapproche le plus du revenu de base, c'est construire l'autonomie des jeunes. Donc créer une allocation d'autonomie fixée au moins au niveau du seuil de pauvreté, donc toujours les 1063 € pour une personne seule, et garantir le droit au logement. Donc ça, c'est les points du programme qui sont, de façon très technique, financière, c'est des revenus qui sont garantis. Donc, on n'est pas sur un revenu de base, évidemment, où tout le monde reçoit ça de façon inconditionnelle, sans avoir rien à faire, etc. Mais a priori, si on lit leur programme, personne ne se retrouvera en dessous du seuil de pauvreté. En parallèle à tout ça, d'autres thématiques qui sont intéressantes et qui rejoignent les différents leviers de revenus de base dont on a déjà pu parler, notamment chez les décroissants, puisque les décroissants promeuvent une partie en revenus de base et une partie en biens communs et services publics. Ben justement, on en parle. Donc ils veulent garantir certains services publics comme la santé, l'éducation, la culture, le sport, avec notamment un 100% sécu, donc ils appellent ça le fait de rembourser de façon intégrale tous les soins prescrits et en intégrant les complémentaires santé dans la sécu. Donc on voit comment finalement ils balayent quand même les besoins de base, entre guillemets, pour les rendre au moins accessibles financièrement pour ceux qui n'ont même pas le seuil de pauvreté, et ils participaient aussi de façon très concrète en termes de services publics. Ils parlent de l'accessibilité aussi, ils parlent du partage des richesses et de la justice sociale, donc ils remettent l'ISF, etc. Donc on a beaucoup de leviers qui vont vers. Donc 3 mesures phares qui instaurent quelque chose qui se rapproche du revenu de base en termes financiers, d'autres mesures autour qui mobilisent les services publics, rendre en bien commun aussi la gestion de l'eau, des énergies, etc. Et on voit à quel point, surtout en ce moment avec la hausse des prix de l'énergie, ça sera important que l'État reprenne au moins un contrôle sur cette gestion-là et si possible, renationaliser. Donc, si vous voulez tendre vers le revenu de base, voilà, signer ou voter NUPES, hein, ils ont fait un énorme travail, en tout cas le programme est bien fait. Le seul point qui va vraiment à l'encontre de l'intention du revenu de base, de la confiance et dans l'individu et dans le collectif que propose le revenu de base finalement, dès la naissance, c'est le point sur la garantie d'emploi. Garantie d'un emploi stable, c'est dans le premier chapitre. Avec progrès social, emploi et retraite. Figurez-vous que on voudrait, dans ce passage-là, proposer un emploi à tous ceux qui sont donc sans emploi. On leur laisse un petit peu de temps quand même, mais avant la fin de droit. Donc un emploi qui soit utile et qui soit financé par l'État. Et là où moi je vois vraiment un frein et même un recul par rapport à notre idée généreuse, c'est que ça réinstaure cette espèce de condition sine qua non de notre utilité intrinsèque à la société, que c'est forcément par l'emploi que ça doit se passer. Et c'est une façon de nier toutes nos activités bénévoles, et qu'elles soient à la maison, même de prendre soin de soi, ou à l'extérieur de la maison, et que ce soit dans des cadres type associatifs, même parti, syndicat, ou des cadres plus informels, genre je vais aider ma belle-mère à faire ses courses, quoi. Donc voilà, donc là c'est quand même le gros frein, c'est cette valeur emploi dont on reparlera juste après.
Mais oui.
Mais peut-être as-tu une petite musique
pause
là-dessus.
Musicale,
ben oui.
Carrément. Alors en fait, c'est une pause musicale non musicale.
Non.
C'est un auteur dans son jus, entre guillemets, mais je pense que ça peut être un bon souvenir de nous rappeler que Paul Éluard a existé et a écrit Liberté il y a quelques dizaines d'années, même plusieurs dizaines d'années.
Liberté pendant l'été 1941. Je l'ai commencé en pensant que le nom qui viendrait à la fin serait celui de la femme que j'aimais. Mais je me suis vite aperçu que celui-ci faisait place à mon désir de liberté, de libération. Il l'incarnait. Ce poème, imprimé pendant l'hiver suivant en Angleterre, fut lancé sur la France par les avions de la RAF. Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté.
La réforme du code du travail,
on veut mieux que ça.
C'est pas qu'il y ait deux ou trois failles,
on veut mieux que ça.
Se résigner sans livrer bataille, qu'ils disent que l'on n'est pas taille, que les gens acceptent qu'on les assaille,
on vaut mieux que ça.
Qu'on laisse gouverner le patronat,
on vaut mieux que ça.
Qu'on cesse de gouverner par vos lois,
on vaut mieux que ça.
Quelques irréductibles gaulois face à l'envahisseur bourgeois qui voudrait piétiner nos droits,
on vaut mieux que ça.
La loi El Khomri,
on vaut mieux.
Et toutes ces conneries,
on vaut mieux.
Marre de ces moqueries en haut lieu nous,
on vaut mieux que ça.
Que toute leur tromperie,
on vaut mieux.
Ça paye pas le bon prix,
on vaut mieux.
On a bien compris qu'on vaut mieux, ouais,
on vaut mieux que ça.
La réduction des temps de repos, les salaires peuvent faire de gros bons en arrière quand le haut de la pyramide le veut faux. D'ajouter le fractionnement des 11 heures de la journée,
on vaut mieux.
Repos et euros à journée, non,
on vaut mieux que ça.
Les heures supplémentaires peuvent être 5 fois moins majorées. Les apprentis mineurs peuvent trimer 10 heures par jour. Les imparcelles à 24 heures, la semaine à 35 heures. Et d'autres qui t'a à cœur que cette loi vise à chourer. C'est au service des exploiteurs, des groupes les plus dévastateurs, à qui cette loi fait des faveurs que l'État a couré. Le plafonnement des indemnités, on peut pas se gourer. C'est pas pour aider le salarié car on veut mieux que ça. Les plans de sauvegarde de l'emploi consistent en à virer les salariés sans quoi la barque est censée chavirer. Pour prétendu motif économique au lieu de ça, là qu'ils pourront se faire sans raison, mais on veut mieux que ça. Passer de 10 à 12 heures de travail par jour, on veut mieux. L'extension du dispositif forfait jour, on veut mieux. Bosser gratos pour leurs beaux yeux par amour, on veut mieux. Oui, pas trop jacou, on veut mieux,
on veut mieux que ça.
Et puis c'est vrai qu'aller s'épuiser,
on veut mieux que ça.
S'enliser dans l'entreprise et se mépriser,
on veut mieux que ça.
S'échiner,
mieux que ça.
Et se ruiner,
mieux que ça.
Et trimer pour déprimer, puis déprimer,
on veut mieux que ça.
S'abîmer pour pas un rond pour des patrons,
on veut mieux que ça.
Souffrir comme en nation d'Emmanuel Macron,
il vaut mieux pas.
Chez Fayon,
on veut mieux que ça.
Et la pompe, c'est ça qu'on compte en fait d'affront,
on veut mieux que ça.
Faire taf, non,
on veut mieux que ça.
On vaut mieux que se tuer au boulot, que se maintenir la tête sous l'eau, que s'anesthésier le ciboulot. Pour l'heure,
on veut mieux que ça.
On vaut mieux que bosser au McDo, que mettre en rayon des packs d'eau. On est loin de nos rêves d'ado,
c'est vrai qu'on veut mieux que ça.
Perdre sa vie à la gagner, passer son temps à se manier, on est tous dans le même panier,
et on veut mieux que ça.
Notre pouvoir pourront pallier, tant ils vont voir qu'on est panier si on cesse les accompagner,
car on veut mieux que ça.
Grève générale, ad vitam aeternam, bâti par les réclames, ta petite parée, c'est le drame pour la bourgeoisie, car Ricard qui fabriquait sa cam, qui a trimé pour ses produits et sa gamme, sans salariat,
aïe aïe aïe,
ça va pas, ah bah ça tombe bien, combien vaut-on à ce stade-là, on vaut mieux que leur dire qu'on vaut mieux que ça. Ils ont là appris qu'on se moque de savoir combien on vaut, car on n'a pas de prix, pas de prix.
On vaut mieux que ça, on vaut mieux que ça.
Ce qui me plaît le plus dans l'idée du revenu de base, c'est qu'elle repose totalement la question de l'individu dans la société. Elle la repense.
Je pense que je prendrais plus le temps de me poser pour savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire justement. Et genre du coup, j'essaierai de créer des choses.
C'est d'avoir la sérénité de pouvoir assurer mes moyens vitaux et mes besoins élémentaires, rudimentaires tous les mois. Voilà, sans avoir à courir après une activité salariée.
C'est une vie où on est heureux et on est comblé par ce qu'on a envie de faire. Pouvoir réaliser ses rêves, même si c'est pas de l'argent, si c'est des sorties, vivre dans la nature.
L'être humain n'est considéré aujourd'hui que comme un être producteur et consommateur. Ce qui signifie que c'est le travail qui le détermine.
En gros, pour moi, une vie réussie, c'est pas une vie forcément où tout ce que j'ai fait a réussi. Mais c'est plutôt une vie dans laquelle tout ce que j'ai voulu faire, j'ai pu le faire sans frein autre que ce que je me suis fixé moi-même, entre guillemets.
J'ai oublié d'être un artiste original. J'avais dit plus tard, on verra. Quand l'inspiration viendra, après ce confortable CDI, mais oui, c'est le bon sens, j'aurai toujours de quoi vivre. Au supermarché, l'on me voit parfois, ne vous en faites pas, l'été à Montigny. Je vais au cinéma aussi, en bon spectateur. Qui admire le travail fini des autres et quitte la salle en se disant qu'il en fera autant quand il aura le temps. Disons samedi prochain ou le suivant.
C'est quand même fou de penser que la Terre est à la base suffisamment abondante pour tous, mais qu'une petite poignée de personnes se sont appropriées ses fruits et que la grande majorité doit trimer toute sa vie pour obtenir de quoi survivre. Le revenu de base, en voici une bonne idée quand même. Mais les gens, ils comprennent pas ça. C'est pourtant pas compliqué. Bon, je vous explique. Le revenu de base, ça serait un droit universel. Tout le monde le reçoit, quel que soit leur revenu ou leur situation professionnelle. Inconditionnel. Aucune contrepartie n'est requise pour le recevoir. Plus personne pour vous fliquer. Vous avez refusé deux offres d'emploi. Individuel. Il est versé à chaque membre du foyer sans considération des revenus de ses autres membres. Eh oui, même Bobonne qui fait à manger pour tout le monde. Permanent. De la naissance à la mort, les morveux comme les vieux pourront le toucher. Ah oui, ça coûte cher les couches. Inaliénable. Droit fondamental pour tous les citoyens. Les bénéficiaires ne peuvent pas en être dépossédés. Cumulable. Il s'additionne avec tout autre revenu, salaire, certaines allocations. Ça veut dire que ça t'empêchera pas de devenir Bill Gates. Enfin, si tel est ton rêve. Et cette idée date pas d'hier. Un mec plutôt stylé, Thomas Paine, défendait déjà au XVIIIe siècle la mise en place d'un capital de départ pour tous les jeunes de 21 ans. Financé par un système de taxes foncières, il visait à rendre plus concrète l'idée d'un héritage commun de la Terre dont une part devait légitimement revenir à chacun. C'est grâce à son poteau activiste Thomas Spence qu'on trouve en 1797 la première proposition de revenu universel payé tout au long de la vie. Plus qu'un modeste capital de départ, Toto défendait le versement régulier d'une somme généreuse permettant à chacun de subvenir à ses besoins primaires et de stimuler l'activité économique locale. Plus tard, en 1848, le Belge Joseph Charlier formule une proposition de dividende territorial payée chaque trimestre à tous et financée par un système de prélèvement sur la valeur des propriétés privées. Comme ses copains, Charlier affirme donc que la terre est un patrimoine commun mis à la disposition de tous pour que chacun puisse subvenir à ses besoins. Il ajoute à ça que la notion de patrimoine commun ne s'applique pas seulement aux ressources naturelles, mais aussi à tout ce dont nous avons collectivement hérité. Les savoir-faire, les technologies, les innovations, et dont aujourd'hui, seule une partie infime d'humains en récolte les fruits. Ça ne serait pas légitime qu'une part de cet héritage commun soit redistribuée à tous sous forme de salaire ou de dividende ? Se demandait l'affreux Jojo. C'est dans les États-Unis des années 60 que la proposition va connaître sa première heure de gloire et se retrouver au cœur du débat dans le monde académique puis politique. On peut globalement identifier deux facettes au débat de l'époque qui font très clairement écho à celui que nous connaissons aujourd'hui dans les pays industrialisés. Premièrement, l'inquiétude face à l'automatisation qui fait craindre à certains la raréfaction des emplois et une augmentation de la pauvreté. Et deuxièmement, l'inefficacité des programmes de lutte contre la pauvreté et les effets pervers qu'ils génèrent.
À la droite du spectre politique.
Dans cette frange que l'on nommerait aujourd'hui néolibérale, Milton Friedman plaide ainsi pour une suppression de tous ces programmes d'aide et leur remplacement par une modeste garantie de revenus qu'il nomme impôt négatif.
À la gauche.
Certains comme James Tobin et John Kenneth Galbraith plaident au contraire pour un revenu socle avec lequel pourraient être maintenues certaines aides et incite en 1972 le candidat démocrate perdant à la présidence, George McGovern, à incorporer une proposition dans son programme. Un match nul qui a le mérite d'avoir fait avancer la question. Au début des années 80, ce débat prend de l'ampleur en Europe grâce à quelques personnalités, dont le philosophe Philippe Van Parijs, qui parvient avec des frérots écolo-gaucho-intellectuelo-extrémistes européens à créer un réseau international baptisé Basic Income European Network. Ce réseau, devenu Basic Income Earth Network en 2004, existe toujours et organise très régulièrement de grandes conférences internationales. Puis, en 2013, le mouvement français pour un revenu de base est créé par un groupe de citoyens lors de l'initiative citoyenne européenne pour le revenu de base. Cette initiative, regroupant 27 pays, récolte 300 000 signatures en Europe et 54 000 en France. Elle lance la création de nombreux réseaux pour le revenu de base dans différents pays. Certains membres du mouvement convainquent Benoît Hamon de proposer le revenu universel dans son programme en 2017. Petite percée pour le revenu de base, mais peu concluante. Alors bon, les gens ils me répondent souvent « C'est bien beau tout ça, ils sont bien braves ces doux rêveurs, mais c'est complètement utopique. Revenez dans la réalité, le revenu de base ça n'existe pas, c'est impossible. Et puis il y a l'argent !»
Alors premièrement, nous n'avons jamais autant été dans une société d'abondance.
Ha ! L'argent, il n'y en a jamais eu autant. Et puis, tout dépend de ce qu'on fait avec. Je vais pas développer ça ici, mais il y a plein de solutions pour financer un revenu universel.
Et deuxièmement, qu'est-ce qu'une utopie ? Tout ce qui fut utopie un jour devient réalité ensuite. Un homme noir qui arrive au pouvoir aux États-Unis, un mec qui va sur la lune, une femme qui a le droit de vote. Ha ! Si tu avais dit à un mec au Moyen-Âge qu'un jour on boufferait des clubs sandwichs sous téléphone, il aurait crié « Utopiste !»
Bon, peut-être pas. En fait, c'est faisable techniquement. Et depuis des décennies, beaucoup d'expérimentations se sont faites autour du monde. J'ai plein d'exemples à vous donner.
Regardez en Alaska. Au milieu des années 70, le gouverneur républicain Jay Hammond commence à défendre l'idée selon laquelle les ressources pétrolières de l'État sont un patrimoine commun qui doit bénéficier à tous les résidents actuels ainsi qu'aux générations futures. Au lieu de garder tout le pactole pour lui et ses potes, il met sur pied en 76 un fonds souverain, l'Alaska Permanent Fund, dont une partie sera dédiée à l'investissement sur les marchés financiers et l'autre sera redistribuée sous forme de dividendes annuels à la population. Eh bien, figurez-vous que 6 ans plus tard, en 1982, un premier revenu universel de 1000 dollars est ainsi versé à tous les résidents de l'État, américains comme étrangers. Depuis, chaque année au mois d'octobre, les résidents de l'Alaska continuent à percevoir ce dividende, dont la valeur fluctue en fonction des rendements du fonds permanent. Mais ne partons pas si loin. Dans notre chère France, dans le Lot-et-Garonne, est né en 2013 le projet d'éco-village Terra. L'ambition est à terme que la valeur produite par les activités économiques de Terra permette d'autofinancer un revenu base à tous les habitants de l'éco-village au maximum en monnaie locale. Depuis 2018, avec l'aide d'un financement participatif, 5 personnes touchent un revenu d'environ 1000 euros par mois, dont 85% en monnaie locale. Quelle bande de hippies, diriez-vous ? Peut-être, mais pendant ce temps-là, ça permet aux bénéficiaires d'investir davantage de temps et d'énergie pour le développement du projet. Et les 85% en monnaie locale circulent directement dans l'économie réelle, alimentant le territoire, les entreprises et les producteurs locaux. Et toc !
Je pourrais vous en donner plein des comme ça, mais bon, on va s'arrêter là.
Eh ben on s'arrête là alors. Mais c'était quoi cet extrait, dis-moi Virginie ?
Et alors le dernier extrait, c'est en fait le début du film qui s'appelle Les gens, que vous retrouverez aussi sur le site revenudebase.info ou sur YouTube MFRB, qui a été réalisé donc avec cette intro très dynamique et très très claire. Et ensuite, vous avez des témoignages. En fait, tous les témoignages qu'on a distillés au fil de nos émissions, des témoignages de personnes très très différentes qu'on va pas évidemment remettre juste dans cette émission ici. Sinon, on ferait plus rien. On ne ferait qu'écouter les témoignages des autres. Mais bon, on est quand même là pour travailler. Faut pas dire. Mais en tout cas, voilà, je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo. C'est très instructif et ça coupe un petit peu toutes les, tous les, vous savez ce qu'on dit sur les gens, ils arrêteraient de travailler. Les gens, ils sont pas sympas entre eux. Ils sont individualistes. Figurez-vous, ma brave dame. Donc, avec un revenu de base, ça n'irait pas du tout. Et en fait, quand on interroge les gens, c'est pas ça du tout ce qu'ils nous répondent. C'est incroyable. Il y en a quand même qui se sont amusés à faire des tours de base tous les ans pour aller interviewer les gens et leur présenter l'idée du revenu de base. Donc si ça vous intéresse d'ailleurs, il faut un tour de base 2022. Donc vous allez sur le site Les gens et vous pourrez les rejoindre à vélo pour sillonner la France.
Ah, parce qu'ils font leur tour de base en vélo ?
Mais carrément, moi je ne comprends pas. Mais j'admire beaucoup. C'est beau. Alors nous, on va pas le faire en vélo, notre petit tour de nos émissions. C'est pas la peine, il y a même pas besoin de pédaler. Radio Campus, il y a l'électricité, c'est super. Par contre, avec Catherine et Max, on va balayer un petit peu, on va revoir rapidement toutes les thématiques et tous nos invités avec toute la richesse qu'ils nous ont partagée, que vous pourrez compléter évidemment, je l'ai dit, dans les podcasts ou sur la carte qui reprend toutes les expérimentations, y compris les nouvelles, parce qu'il y en a des nouvelles presque tous les mois, sur le site revenudebase.info. J'ai envie de commencer par la première chose qui vient quand on parle de revenu de base. La première intention, c'est d'éradiquer la misère ou la pauvreté. On en a parlé plusieurs fois. On a eu d'abord, en fait, deux mois qu'on a consacré pendant ces 18 à la précarité. Un premier mois, on a invité Cyril, qui est jeune étudiant du campus d'ailleurs de Villeneuve-d'Ascq, et qui nous a partagé comment il avait notamment vécu la pandémie, le fait de devoir rester enfermé. Et il nous a témoigné un peu les autres étudiants comment ils avaient vécu ça. Vous savez, ces étudiants qui entre 18 et 25 n'ont rien. Alors, au mieux, ils sont boursiers, au mieux, ils ont des parents riches qui peuvent subvenir à leurs besoins, mais sinon, non, ils n'ont pas le droit au RSA. Mais ils ont le droit d'aller en prison s'ils font des conneries. Hein. Parce que ils sont adultes quand même, majeurs, vaccinés, etc. Bon. Donc voilà. On a aussi exploré la précarité avec Stéphane, un vieux baroudeur du marché du travail qui nous a raconté un petit peu comment il était passé dans toute sa vie d'un emploi à l'autre et qu'il a atterri à Radio Campus comme bénévole et comment, finalement, il jonglait malgré sa précarité entre les activités choisies qui lui tiennent vraiment à cœur et des boulots, quand même plus souvent alimentaires qu'autre chose et dans son parcours souvent douloureux. Et on avait dans une deuxième émission rencontré Rosetta qui est retraitée, mais retraitée, obligée de travailler, qui a été femme, maman solo, etc. Donc voilà, donc qui nous reparlait aussi de cette précarité et tous nous ont partagé le plus difficile sans doute là-dedans, c'est de un la pression, la charge mentale de devoir toujours se projeter, de devoir calculer à la fin du mois qui arrive le 15, etc. Et de deux, cette stigmatisation constante, la fameuse épreuve du guichet, d'aller devoir demander 10 euros de réduction ou une carte à ceci, à cela, juste pour avoir droit à un bon alimentaire. Voilà, réduire les gens à la supplique pour que nous, on se sente collectivement et individuellement généreux qu'on gagne notre part de paradis. Merci. Autour de la précarité, on est allé aussi le jour, parce qu'en fait, on a découvert qu'il y avait une journée internationale des travailleurs sociaux. Et oui, Catherine, tu y étais et tu nous as partagé. C'était beau. Et tous ces travailleurs sociaux se sont retrouvés une soirée à la Coroutine, qui est un tiers-lieu à Lille. Et ils se sont rendus compte que d'abord, il existait une journée rien que pour eux, qu'ils le savaient même pas. Et ils ont partagé leur vécu et leur expérience professionnelle et aussi en même temps la joie de soutenir les gens, de pouvoir être un petit coup de pouce. Et en même temps, la frustration et aussi la difficulté de prendre soin de soi. Est-ce que tu veux développer un peu?
Tout, on a pu échanger effectivement, parce que le secteur du social, il est énorme au final, il peut atteindre plein de domaines. Et on a pu échanger sur effectivement les points positifs, les bons côtés, et ce qui ferait qu'on, même avec un revenu de base, on resterait quand même dans le milieu et on travaillerait toujours, quels que soient les horaires. Et aussi, l'impact, la rencontre avec les gens, les souffrances, les douleurs, les échecs dans la vie, et tous ensemble en discuter, savoir ce qu'on peut faire et les idées de tout le monde.
Et j'ai même entendu lors de cette soirée que finalement vous disiez que si les gens étaient sécurisés financièrement, en fait ça vous soulagerait le travail, non pas pour en faire moins, mais pour en faire mieux.
Oui, ça c'est un gros point effectivement. Alors que ce soit pour libérer la tête des personnes qui ont des difficultés, déjà retirer l'argent en se disant ça j'ai pas besoin de m'en occuper, j'ai un revenu de base, tout va bien, je peux chercher ce que je veux faire, où je veux aller, ou m'occuper de ma santé s'il y a des soucis de santé. Oui. Toutes ces choses-là. Et retirer le poids de remplir plein de formulaires, plein de documents, d'être en retard de 2-3 mois, comme on l'a dit, parce que le document n'est pas bon et qu'il faut apporter de l'argent et trouver des solutions, etc. Ça serait un gain de temps, je n'imagine même pas, il serait considérable.
Et pour faire quoi, finalement, ce gain de temps?
Alors, ce gain de temps, il servirait, très bizarrement, à s'occuper de la personne, à ses projets, à sa santé, à son bien-être, et s'il y a eu des accidents de vie, effectivement un parcours prison, quoi que ce soit, ça permettrait aussi de se cibler cet accident et de comprendre ce qui s'est passé et d'avancer dans des projets plutôt que d'essayer de trouver un logement en catastrophe avec de l'argent et des aides et des ci et des ça et des boîtes de conserve pour manger jusqu'à la fin de la semaine.
Donc en fait, si je comprends bien, s'il y avait un revenu de base, ça vous permettrait de faire le métier original, d'accompagner à l'insertion social et professionnel.
Voilà.
Incroyable.
C'est très sympa.
C'est incroyable. Non, mais je pense que c'est un métier à inventer. Non, mais oui. Vraiment. Là, oui. Franchement. Et je te remercie de faire le lien aussi. Alors, j'ai quand même une toute petite chose que j'ai découverte, c'est que finalement, les parcours des agents sociaux, les parcours professionnels, pour le coup, peuvent être aussi très précaires.
Oui. Oui, très précaires, ne serait-ce que déjà pour se former dans le milieu. Donc, en final, l'histoire est la même, hein. Ça veut dire il faut trouver des financements, faut trouver de l'argent, faut trouver le temps, faut travailler à côté pour payer l'école et faire ses études. Donc en fait au final le problème est le même pour les travailleurs sociaux. Et il y a aussi la précarité, hein, le fait d'avoir un métier qui va pas être très valorisé, pas forcément mieux payé et qui ne sera pas forcément dans la continuité, donc avec des temps de chômage ou ce genre de choses en fait, hein. Tout ce qui a un impact avec les personnes qu'on rencontre, on les vit aussi au final.
Oui, surtout si, comme ça se passe actuellement, on essaye de dégraisser le mammouth, de faire des économies sur les services publics, qu'on donne de moins en moins de subventions aux associations, etc. Donc ce qui précarise ou carrément licencie
les personnes, oui.
Qui sont un peu utiles, on peut le dire, on peut le dire. Et alors j'ai envie de terminer sur le thème de la médecine, en fait de la santé. On a reçu aussi Isabelle qui travaille à ATD comme bénévole, hein, on parle encore du bénévolat, à ATD qui est même au CESE aujourd'hui national. Donc c'est le Conseil économique et social. Et elle était venue accompagnée de Philippe qui est médecin urgentiste. Et ils nous ont parlé aussi beaucoup de cet impact sur la santé, de la pauvreté, de cette précarité qui bouffe la tête. Le cortisol, vous savez, cette hormone du stress qui littéralement bouffe le cerveau. Parce qu'on perd des neurones à cause du cortisol, faut le savoir. Et qu'il y a un nombre de maladies dont on se passerait si on n'avait pas tout ça. Donc merci à tous ceux-là parce qu'ils nous ont amené finalement des témoignages. Et alors un petit témoignage qu'on avait lu aussi, c'était en décembre, le monsieur précaire, monsieur décembre de notre calendrier que Catherine va nous lire.
Oui, donc monsieur décembre, il nous dit, du moins, pas il souhaite, mais il nous dit, je ne veux plus enfiler une guirlande de petits boulots, avoir 100 CV dans ma hotte, qu'on ne me fasse pas de cadeaux. De cadence et d'horaire infernal, qu'on me raconte des histoires de CDI. Et ce qu'il aimerait, ce qu'il dit je veux prendre les rênes de ma vie, avoir un toit à moi, offrir des cadeaux à mes propres enfants, nous souhaiter à tous un joyeux Noël.
Yes, merci. En plein mois de juin, moi j'aime bien ce petit joyeux Noël, parce qu'après tout, avec un revenu de base, ça serait Noël toute l'année. La deuxième grande thématique qu'on a abordée, c'est, je vais l'intituler la paix. Avoir la paix. Qu'est-ce qui a pas rêvé d'avoir la paix, un peu de tranquillité, de coulatitude, d'harmonitude, tout ça. Et on a abordé ça sous plusieurs angles. Alors d'abord, en termes d'inégalité ou d'égalité, femmes-hommes notamment. Donc on a entendu Bérangère qui est maman solo avec deux papas différents qui n'ont pas pris leurs responsabilités et donc qui se retrouvent à faire des études, à reprendre des études et à essayer de gérer ces deux petites, etc. Et on l'a reçue aussi avec Corinne qui est la présidente de l'association Mères pour la paix justement et de voir comment les femmes sont alors je ne dis rien contre les hommes à l'inverse hein, ce n'est pas en négatif, n'entendez pas ça, mais reconnaître ici une place des femmes dans tout ce qui est care, dans tout ce qui est éducation, promotion de la paix dès l'enfance, avec de l'empathie, enfin voilà, toutes ces tâches, toutes ces mêmes qualités qu'on leur colle, dont elles pourraient bien de temps en temps se libérer pour gueuler un bon coup et prendre soin d'elles, mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de présence féminine dans les associations, dans l'éducation, et on leur a donné une part pendant un mois au moins pour entendre ce qu'un revenu de base pourrait leur apporter et libérer. Notamment aussi, on en a parlé, des violences conjugales qui sont, je le répète, qui peuvent être aussi de femmes à hommes, mais voilà, en grande majorité quand même à l'inverse. On a abordé aussi la paix avec notre environnement, puisqu'on a vu comment un revenu de base pouvait accompagner et même accélérer la transition écologique. Alors on l'a vu par deux entrées, on l'a vu très récemment le mois dernier avec des extraits voilà, d'une spécialiste de la projection sur la transition écologique. Alors la projection surtout en termes d'emploi, qu'est-ce qu'il faut changer à nos emplois pour pouvoir accompagner et vivre cette transition en termes d'énergie, en termes de reconversion notamment de l'industrie vers l'agriculture par exemple. Et on a vu ça aussi par rapport au thème des communs. Comment se réapproprier notre eau, nos énergies, mais aussi Internet, etc. Et nos façons de gouverner aussi, en recevant Julien, qui est un commoner, qui est venu nous parler de tout ça. Un des outils aussi de cette paix, c'est l'argent. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur, mais néanmoins, il y contribue. Aujourd'hui, on a beaucoup d'argent qui circule. Beaucoup d'argent dans d'énormes poches et pour l'instant en tout cas une banque centrale européenne qui n'est pas au service des citoyens et les banques privées encore moins. On voit la difficulté qu'on a à emprunter aujourd'hui alors même que les taux étaient en dessous de zéro. Donc on ne peut pas dire que c'est insurmontable pour les banques. Et donc on a reçu Cyril qui nous a parlé de la monnaie libre. Quoi? Vous n'êtes toujours pas intégré à la monnaie libre? Non, là, cher auditeur, c'est pas possible. Vous allez sur Internet, vous tapez monnaie libre. Il y a un groupe local qui est très, très dynamique. Vous rencontrerez des gens extraordinaires qui vous feront vivre un morceau d'utopie réaliste, réalisable maintenant. Donc, rejoignez le réseau de la monnaie libre parce que c'est une façon, indépendante des politiques, de lancer notre propre utopie sans attendre personne. Donc, foncez. Tapez monnaie libre. Et on a reçu aussi Frédéric Bosquet, qu'on a entendu dans les extraits, qui a monté une petite expérimentation de rien du tout, dans le Lot et Garonne, au fin fond de la campagne, pour pas dire le tour du cul, voilà. Et en fait, figurez-vous qu'il a réussi déjà à instaurer un revenu de base avec une monnaie locale, donc il nous a parlé aussi de la monnaie locale, pour revivifier un territoire à l'abandon. C'est-à-dire que toutes les personnes s'en vont vers la ville, et du coup, il n'y a plus personne, on réussit pas à valoriser ce qu'on a déjà. Grâce au revenu de base et à la monnaie locale, il a réussi à retourner et à créer un cercle vertueux. Est-ce que tu veux bien nous lire notre grand-mère, au mois de mars, vous la retrouverez sur le site. Vous pourrez télécharger tous nos personnages représentatifs.
Alors, notre mamie, elle nous dit « Je ne veux plus être isolée par manque d'argent, payer de ne pas avoir assez cotisé, être une charge et une source de tension financière pour ma famille, m'inquiéter pour mes petits-enfants. J'aimerais avoir les moyens de me soigner et d'être aidée à la maison, ça c'est sympa, rencontrer des jeunes dans les associations, jouer avec mes petits-enfants, préparer sereinement mon départ, profiter de ma retraite, des petits plaisirs, voyager, et trois petits points bien évidemment.
Merci beaucoup.
Eh ben, ça me rappelle l'histoire de Clémence, ça.
Clémence.
Oui, tu sais, Clémence qui part en vacances.
Qui part en vacances, mais ça rime.
Oui, c'est une chanson d'Anne Sylvestre.
Ah.
On l'a dit à la grand-mère qui l'a dit à son voisin. Le voisin à la bouchère à son gamin. Son gamin qui, tête folle, n'a rien eu de plus urgent que de le dire à l'école à son voisin Pierre-Jean. Clémence, Clémence a pris des vacances. Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment on enfonce? Clémence va bien. Ça sembla d'abord étrange, on s'interrogea un peu sur ce qui parfois dérange la raison de certains vieux. Si quelques mauvaises chutes avaient pu l'handicaper, ou encore une dispute avec ce brave honoré. Clémence, Clémence a pris des vacances. Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment on enfonce? Clémence va bien. Puis on apprit par son gendre qu'il ne s'était rien passé, mais simplement qu'à l'entendre, elle en avait fait assez. Bien qu'ayant toutes ses jambes, elle reste en son fauteuil, un peu de malice flambe parfois au bord de son œil. Clémence, Clémence a pris des vacances.
Clémence, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment on enfonce? Clémence va bien. Honoré, c'est bien dommage, je dois tout faire à la maison. La cuisine et le ménage, le linge et les commissions. Quand il essaie de lui dire de coudre un bouton perdu, elle répond dans un sourire, va, j'ai bien assez cousu. Clémence, Clémence a pris des vacances. Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment on enfonce? Clémence va bien. C'est la maîtresse d'école qui l'a dit au pharmacien. Clémence est devenue folle, paraît qu'elle ne fait plus rien. Mais selon l'apothicaire, dans l'histoire le plus fort n'est pas qu'elle ne veuille rien faire, mais n'en ait aucun remords. Clémence, Clémence a pris des vacances. Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment on enfonce? Clémence va bien. Je suis de bon voisinage, on me salue couramment. Loin de moi l'idée peu sage d'inquiéter les braves gens. Mais les grands-mères commencent de rire et parler tout bas. La maladie de Clémence pourrait bien s'étendre là. Toutes les Clémences prendraient des vacances. Elles ne feraient plus rien. Toutes les Clémences, comment on enfonce? Elles seraient bien. Toutes les Clémences prendraient des vacances.
Catherine, tu nous as sélectionné un autre portrait, le portrait de l'étudiant.
Oui, et lui, il nous dit qu'il ne veut plus vivre au crochet de ses parents, jongler entre les bourses et l'APL, s'endetter pour payer ses études, accepter n'importe quel taf, être orienté selon le marché et non ses compétences. Il aimerait se soigner et se loger correctement, prendre le temps de voyager, de s'engager, essayer plein de boulots différents, lancer sa petite entreprise, étudier toute sa vie ce qui lui plaît.
Merci beaucoup. Et du coup, ça me rappelle qu'on a reçu deux jeunes, effectivement. On a reçu Lubin, 10 ans, qui nous a partagé qu'il était déjà inquiet, en fait. Il était déjà très sensible quand il passait dans la rue, qu'il voyait des personnes qui faisaient la manche, par exemple. Il se posait beaucoup de questions dessus. Il est très sensible aussi aux addictions. Voilà, tous ces mécanismes, en fait, qui font perdre un niveau de santé, de sociabilité, et que du haut de ses 10 ans, il était déjà inquiet pour son métier plus tard, et pas, vous savez, comme ces enfants ou même qu'on a pu être de je vais être footballeur professionnel ou président du monde ou aller même chanteuse, etc. Là où il y a une insouciance, il y a quelque chose comme du rêve, peut-être un peu superficiel, mais quand même. Et en fait, aujourd'hui, les jeunes qu'on a, alors soit ils sont inquiets pour la planète. Je connais un jeune qui, à 13 ans, se dit déjà que de toute façon, il n'aura pas le temps de vieillir. Ou alors, des petits bouts comme celui qu'on a reçu au bout de ses 10 ans qui dit qu'il est déjà inquiet parce que, et s'il trouve pas de travail, comment est-ce qu'il va faire pour payer son loyer? Et puis, il pourra pas s'acheter son pain au chocolat préféré, etc. Enfin, voilà. Et donc, c'est questionnant. Et je pense que c'est aussi à prendre en compte. Et on avait reçu aussi Jason, un autre étudiant, mais qui, lui, avait déjà travaillé. Donc, il était déjà passé par le monde du travail, notamment par l'armée. Et puis, il voulait se réinsérer. Et il expliquait comment ça pouvait être compliqué d'être juste en recherche, jeune, sans beaucoup d'expérience. et comment trouver sa place dans la société entre, comme tu l'as dit Catherine, entre ses compétences, entre la demande, entre les exigences des conditions de travail, etc.
Et ça rentre également en écho avec les jeunes d'Agrotech Paris là, qui viennent de lancer une série de démissions en commun. Et je pense que ça les aiderait quand même pas mal hein, s'ils avaient un revenu de base, ces jeunes-là, pour enfin changer le monde.
Alors, si vous en connaissez un, moi, j'aimerais beaucoup les interpeller, leur poser la question. Avec un revenu de base, est-ce que ça leur permettrait de rebondir plus facilement? Et c'est en lien aussi avec toutes les démissions qu'on voit aujourd'hui. On en parle beaucoup aux États-Unis, on en parle moins en France, mais je vous assure qu'il y en a. Alors même qu'on a déjà une sorte de filet social, même s'il a de plus en plus de trous. Et du coup, c'est le dernier thème que je voulais aborder aujourd'hui et qui a servi aussi un peu de fil rouge, c'est cette fameuse valeur travail. La valeur travail dont dépend notre mérite à vivre. C'est-à-dire que si vous ne prouvez pas que vous avez l'intention et que vous êtes utile à la société, avec évidemment l'emploi comme ultime symbole, eh ben, vous ne méritez pas de vivre ou de bien vivre, vous ne méritez pas d'avoir un écran plat, vous ne méritez pas de pouvoir vous offrir un restaurant ou même un coiffeur de temps en temps. Et c'est une idée qu'on retrouve de plus en plus. Et qui nie complètement ce que je disais en début d'émission, tout ce qu'on fait finalement dans notre vie d'informel, de bénévole, qui sont au moins aussi utiles, hein, et nous trois ici autour de la table, comme vous dans votre voiture ou chez vous en train de nous écouter, on est en train de s'informer, de communiquer, de réfléchir, on fait de la philosophie, on est citoyen et on est bénévole en même temps. Sauf si un auditeur nous disait qu'il est payé pour nous écouter. Et pour l'instant, on sait pas combien vous êtes exactement, on n'a pas les moyens. Sachez-le tout de suite, ne venez pas réclamer. Donc voilà, cette valeur travail qui casse en tout cas notre élan à contribuer dans quelque chose qui nous plairait et évidemment qui serait utile parce qu'on a tous besoin de se sentir utile. D'ailleurs, on avait travaillé sur cette valeur travail justement avec Bernard, qui est un syndicaliste depuis au moins. Et on avait parlé aussi avec JN, qui est un agent d'entretien et qui nous parlait des conditions de travail qui se désagrègent, notamment avec ces grosses boîtes qui sous-traitent, des petites boîtes qui sous-traitent, et les services publics qui sous-traitent, bref. On avait aussi échangé avec un entrepreneur, Florent qui a monté sa petite boîte de livraison à vélo à Lille, vous le croiserez peut-être sur son petit reporter, et qui nous a partagé qu'effectivement, comme les expérimentations nous le disent, un revenu de base stimule l'économie, parce qu'il libère justement la peur du lendemain et qui permet à chacun de trouver sa place, d'inventer sa propre activité, pour ne pas dire emploi, on sait jamais. J'ai envie quand même d'évoquer un peu la culture, Max.
Mais pourquoi pas?
Et si on libérait la culture avec un revenu de base? C'est toujours à la fin.
Il reste toujours 2 minutes.
Culture étant libérée, il te reste.
Mais oui, non, mais écoute, j'avais au moins tout ça à dire.
Donc imaginez, si vous aviez un revenu de base, est-ce que vous trouveriez pas vous-même un petit temps pour dessiner, faire de la musique, aller danser?
Sans doute.
Et puis, sculpture de ballon.
Et puis plus on en consomme et plus on a envie d'en faire. C'est quand même bien la culture pour
consommer
ça.
Consommer la culture.
Mais oui, bon alors.
Partager. Vibrer.
S'imprégner,
exactement.
Bon, d'accord, j'ai dit des bêtises. Oh.
Sors de ce corps. Et donc, pour le temps libéré, on avait rencontré Marlène, alors qui est chômeuse, mais alors une chômeuse hyper active. Et depuis, figurez-vous qu'elle a encore changé 2 fois. Non pas parce qu'elle est virée à chaque fois, pas du tout, mais parce qu'elle se lance dans des missions pour des ONG en ce moment. Et on avait discuté aussi avec Laurent, qui reçoit l'allocation adulte handicapé. Donc, on pourrait se dire, oh, trop la chance, il est sécurisé. Et ben, figurez-vous que lui aussi, il est hyper actif. Il fait des ateliers d'écriture d'un côté, il milite pour le revenu de base. Et oui, il y en a. C'est incroyable. Donc on se dit, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous un revenu de base? Je n'ai pas encore trouvé un seul argument correct. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous signé une initiative européenne?
Eh bien, c'est la dernière chance.
Mais oui, avant
c'est
le 25, la dernière vite.
Alors profitez-en. Et puis, ben, nous, on se retrouve le mois prochain, sans aucun doute.
Oui.
Et ben, j'ai gardé comme dernière chanson Les chômeurs de mon quartier, qui, je pense, est quand même une très bonne chanson pour le revenu de base.
Hein,
pour
le bien,
bah oui. Hein, les... Renaud Bistan sur les ondes de Radio Campus. Et pour tous essentiels, ce sera le mois prochain, le premier lundi à 8h. C'est parti. Allez, hop, Renaud Bistan.
Les chômeurs de mon quartier devraient être salariés pour leur bonne humeur et leur disponibilité. Leur présence bienveillante fait qu'autour de tout s'enchante comme un repère important qu'on peut trouver tout le temps. Tel un service public, le chômeur te renseigne quand tu cherches une rue sur un plan et que t'es pressé. Tu comprends tout de suite que tu frappes à la bonne enseigne. Il te donne de son temps sans aucune arrière-pensée. Les chômeurs de mon quartier devraient être salariés car ils répondent présents à chaque déménagement. Ta voiture a un souci et ils plongent dans le cambouis. T'as une panne informatique et voilà l'esprit pratique. Ils sont tellement compétents dans de multiples domaines que de n'en choisir qu'un, ce serait du gâchis. Faire bêtement la même chose toute la semaine, alors qu'ils aident chacun à être mieux dans sa vie. Chacun 12 000 métiers, commenter la météo, t'aider à faire ton créneau, ça ne paraît pas grand chose, mais dans nos villes moroses, d'égoïstes et de nerveux, ben ils mettent du ciel bleu. Quand j'ai besoin de parler autour d'une tasse de café, où est le psy bénévole qui m'écoutera des heures? Ce sont les copains chômeurs toujours prêts à se sacrifier. C'est bien simple maintenant, je les appelle docteurs. Mais il y en a des traîtres, des chômeurs malhonnêtes, et qui du jour au lendemain se remettent au turbin. Par une journée un peu triste où tu passes à l'improviste pour mater un DVD, le chômeur t'a planté, il a rejoint la cohorte des gens stressés par la vie, piqués par le démon de la reconnaissance sociale. Un air pincé, il te dira, on peut se voir samedi. C'est triste de voir un copain trouver du travail.